Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, ravi de vous retrouver en ce chaud mois de juillet pour ce tout nouveau numéro du Mag au carré. Et comme chaque émission, je suis avec Audrey Jourdain, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous ?
Très bien et vous ?
Super. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré et aujourd'hui, notre émission est consacrée aux actifs de santé puisqu'il faut dire que c'est un marché qui est en pleine effervescence. Nos invités du jour sont Alfred De Crépy, bonjour.
Bonjour.
Managing Director pour Lifento et Aurélie Biasnier, bonjour. Bonjour. Directrice actif de santé et résidence gérée pour CBRE Valuation. Alors, avant de commencer l'émission, Audrey, comme à notre habitude, nous allons nous mettre en jambes avec votre édito.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
En dépit des incertitudes économiques et géopolitiques, l'année 2022 fut un excellent cru pour le marché immobilier de l'investissement en mur de santé. La classe d'actifs immobiliers qui regroupe les EHPAD, les cliniques, les maisons de santé et les cabinets médicaux a concentré 1,4 milliard d'euros d'investissement en 2022. C'est plus de 2% sur un an, mais surtout une progression de 50% par rapport à la moyenne décennale. Cette performance a été générée par trois facteurs principaux. Le premier, un nombre record de cessions. Le deuxième, la progression de la taille de marché des maisons de santé et des cabinets médicaux, passant de 20 millions d'euros en 2021 à 94 millions d'euros en 2022. Et enfin, troisième facteur clé, le dynamisme des SCPI et OPCI qui ont concentré une part de marché de 90%. Terminons par une excellente nouvelle, le marché devrait afficher de nouveaux records dans les années à venir, à commencer par 2023, grâce à l'acquisition en trois étapes d'ICAD Santé par Primonial, REM et d'autres investisseurs minoritaires pour 2,6 milliards d'euros. La première étape réalisée début juillet a permis au marché d'accueillir 1,4 milliard d'euros d'investissement et le solde de l'opération devrait être versé à travers deux autres étapes attendues avant 2026.
Voilà pour les investissements en mur de santé. Place à nos invités.
Les invités du carré.
Alors, on l'a vu, hein, vous avez donné les chiffres, Audrey, une année qui a fait vraiment exploser ses investissements. On va commencer avec vous, Alfred De Crépy. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Lifento ? Je rappelle que vous êtes Managing Director.
Alors, Lifento, c'est une société qui a été créée assez récemment, en 2018, et qui s'est donnée pour mission de proposer à des investisseurs institutionnels des produits d'investissement durables et responsables. On a choisi le secteur de la santé assez vite parce qu'on a tout de suite vu qu'il y avait beaucoup d'impact à investir dans cette classe d'actifs.
Donc durable et responsable aussi en termes de bâtiments ?
Absolument, ouais. Bâtiments, les bâtiments, effectivement, sont à améliorer au niveau de l'environnement. Mais on veut aussi des bâtiments qui accueillent des services et des soins de qualité. Et pour nous, ça, c'est le critère d'investissement essentiel.
Alors, c'est quoi des soins de qualité ?
Des soins de qualité, c'est-à-dire que vous avez absolument besoin, comme quand vous êtes investisseur dans la santé, de vérifier que votre emplacement, le site que vous allez acheter, il y a des soins qui sont de très bonne qualité, où les gens sont contents et les taux d'occupation du coup sont élevés, donc les taux de satisfaction sont importants. Il y a des taux d'encadrement aussi suffisants pour gérer. Voilà, c'est de l'humain en fait, hein, la santé, c'est de l'humain avant tout. Et donc, il faut faire attention à l'humain parce que c'est avec l'humain que va se maintenir la valeur en immobilier.
Et puis c'est vrai qu'on a vu passer quelques scandales aussi, notamment, donc les Français sont encore plus vigilants.
Absolument, donc c'est assez révélateur effectivement de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'on peut, pour un même opérateur, avoir des sites qui sont plus ou moins bien gérés. Et c'est à nous de faire la bonne sélection.
Alors Audrey, dans son édito, a cité plusieurs types de bâtiments, plusieurs types d'actifs santé. Quels sont ceux qui font partie de vos investissements ?
Clinique et EHPAD essentiellement. Alors clinique, il y a toutes sortes de cliniques. Il y a les cliniques médecine, chirurgie, obstétrique. En gros, ça c'est une grosse partie. Il y a les cliniques psychiatriques et les cliniques de soins de suite, réadaptation, voilà, en schématique. Et puis les EHPAD. Voilà, ça c'est à peu près, nous on investit à peu près 50% de l'argent sur les EHPAD, 50% sur les cliniques.
Alors concrètement, vous en avez évoqué quelques-unes. Quelles sont les forces et les faiblesses de la classe d'actifs santé pour un investisseur immobilier?
Alors la classe d'actifs santé, ce qui est essentiel pour nous, c'est que elle répond à des besoins fondamentaux, des besoins prioritaires, absolus. Hein, la santé, on l'a vu pendant la période du Covid, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on a à maintenir dans notre société. Donc c'est des besoins qui sont absolument prioritaires et qui vont être qui sont croissants. On a des estimations de besoins de 200 000 lits supplémentaires d'ici 2030 en Allemagne, par exemple, en EHPAD. C'est un exemple, mais vous avez des besoins qui sont énormes aussi en clinique dans le sud de l'Europe.
Oui, parce que la population augmente et puis vieillit de plus en plus.
Le vieillissement, des maladies chroniques, il y a des diagnostics aussi qui sont de plus en plus poussés qui permettent de soigner, alors qu'on soignait moins bien. Et donc, par exemple, je prends un exemple, mais les soins palliatifs, c'est quelque chose qui est pratiquement inexistant au Portugal.
Oui.
Alors qu'il y a des besoins énormes. Voilà. Donc, c'est ça qui est assez formidable dans cet actif, hein, c'est qu'on est là pour apporter des nouveaux équipements, pour les faire progresser aussi, pour ceux qui existent, les faire progresser, les faire s'adapter. Mais on a vraiment un rôle essentiel dans l'équipement des Européens, parce que nous on est sur le marché européen.
Est-ce que ça donne du sens à ces investissements? C'est vrai qu'investisseur immobilier, on ne pense pas tout de suite à aider les gens, mais là il y a vraiment ce côté-là en fait, d'apporter une aide aux Français, aux Portugais, aux Européens, là où vous investissez. Mais est-ce que ça donne du sens à votre
quotidien? Oui, c'est de l'investissement qui est utile.
Quotidien.
C'est de l'investissement utile. Et si on l'avait un peu oublié, l'investissement doit être utile pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement, l'investissement, c'est un taux de rendement. On va chercher un taux de rendement à comparer avec d'autres classes d'actifs. Mais c'est pas seulement ça le fondement de la valeur. Le fondement de la valeur, c'est l'utilité que ça apporte finalement aux gens. Donc,
Alors, on va parler de votre stratégie. Peut-être, là, vous parlez de la performance. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette en termes de performance?
En yield, on est, c'est en train d'évoluer assez fortement, et puis de façon différenciée selon les pays. Mais si on part sur les rendements de 2022, on était à 4,5 sur les EHPAD et 5 sur les cliniques. Ça, je parle des pays matures, enfin France, Allemagne.
Oui.
Après, si on va en Europe du Sud, on gagnait facilement 100-150 points de plus. Et
d'accord.
Puis là, on est sur une évolution où chacun, alors à des degrés différents et avec des rythmes différents, augmente de 30, 40, 50, voire 100 points de base les rendements.
Alors justement, concernant votre stratégie, déjà, dans quel pays êtes-vous situé? Est-ce que là, vous avez évoqué l'Allemagne, le Portugal, vous êtes en Europe?
Oui, alors on est pour l'instant sur 6 pays européens, parce qu'on a donc la France, Belgique, Allemagne, Italie, Portugal et Espagne.
D'accord.
Donc pour l'instant, on est vraiment sur l'Europe de l'Ouest, parce que il y a des gros besoins. Après, dans une deuxième étape, on ira peut-être plus à l'Est. Mais
il y a beaucoup de travail à faire. Et en France, c'est sur tout le territoire français?
Oui.
D'accord.
Oui, parce que la santé, il y a pas, c'est pas comme les bureaux, vous avez des zones particulièrement attractives pour les bureaux.
Oui.
Il y a des besoins partout.
Peut-être un petit peu moins au milieu de la France, où il y a pas beaucoup de, où il y a plus de vaches que de...
Oui. Et puis on est quand même très vigilant sur la valeur foncière, parce qu'on reste quand même des professionnels de l'immobilier. Et donc on va investir là où l'immobilier a de la valeur, parce que sinon vous pouvez vous retrouver dans des situations difficiles avec des locataires qui vous prennent un peu à la gorge sur la renégociation du loyer. Donc on est bien sûr très attentif à avoir à être dans des villes relativement importantes.
En Ile-de-France par exemple, vous êtes dans Paris Intramuros?
Non, on n'est pas dans Paris Intramuros, parce que là du coup on aurait des rendements qui seraient un peu trop faibles quand même.
Et alors, en parlant de votre stratégie d'investissement, donc vous avez évoqué donc les EHPAD, les cliniques. Est-ce que vous visez d'autres types de bâtiments santé?
Alors, on a des petits investissements qui peuvent être des centres de santé. Les centres de santé, c'est-à-dire par exemple, plusieurs médecins qui se regroupent au même endroit. Et puis, on a développé une sous-classe d'actifs qui s'appelle les hôtels pour patients. Alors, c'est pas directement de la santé, mais ça répond à un besoin hyper important des hôpitaux, des gros hôpitaux, de pouvoir héberger leurs patients avant ou après une opération. Et donc, donc le principe, c'est un hôtel, mais qui est positionné vraiment tout près d'un gros CHU.
Pour les patients en ambulatoire.
Oui, exactement.
Qui doivent rester proches de l'hôpital, qui ne peuvent pas aller chez eux, c'est ça ?
Exactement. Les familles qui peuvent accompagner leurs patients.
Et ça, il y a vraiment une demande là-dessus ?
Oui, il y a une vraie demande. Avec le développement de l'ambulatoire, c'est devenu vraiment très, très nécessaire. Et c'est pour ça que ce concept a été développé par le ministère de la Santé depuis plusieurs années et qu'il a été, depuis 2 ans maintenant, remboursé, enfin les nuits d'hôtel sont remboursées par la Sécurité sociale.
Est-ce que vous avez constaté une évolution des exigences des utilisateurs en termes de bâti ? Alors là, on parlait de bâtiments responsables, durables et responsables en début d'émission. Ça, j'imagine que c'est,
c'est très important. C'est un critère important.
Bâtiments connectés aussi. Quelles sont les exigences ?
Connectés, mais faut pas oublier l'humain. Dans la santé, ça reste quand même le contact humain qui est essentiel. Et puis c'est les espaces communs. Il y a besoin de beaucoup d'espaces communs dans les EHPAD en particulier.
Donc pour que les personnes puissent se retrouver, c'est ça ?
Voilà, pour avoir des lieux d'échange, avoir des lieux d'activité et qui minimisent les temps de trajet entre dans le bâtiment. Du coup, on fait souvent maintenant des espaces communs par étage.
D'accord.
Pour éviter de passer beaucoup de temps dans les ascenseurs. Pour les patients, mais aussi pour le personnel soignant.
Et ça, j'imagine que vous travaillez avec des architectes, vous réfléchissez à chaque projet ?
Oui, absolument, ouais, tout à fait. Donc on a un très beau projet, par exemple, en ce moment, à Busto-Arsizio, c'est près de Milan.
Ouais.
On va pouvoir construire 240 lits d'EHPAD. Un très très beau bâtiment qui va être au top des normes de construction et aussi de réflexion sur les meilleures dispositions dans un bâtiment relativement grand pour que ça fonctionne bien. Le fonctionnement dans un bâtiment de santé est très important pour les personnels soignants, pour leur éviter d'avoir des déplacements trop longs, etc.
Mais il faut penser du coup aux usagers, au personnel aussi qui travaillent chaque jour dans ces bâtiments. Est-ce que les exigences varient en fonction des pays européens ? Par exemple, est-ce que les Italiens, demandent certaines choses que les Français ou les Allemands ne demandent pas ?
Oui, il y a des traditions, il y a des habitudes qui sont différentes. Par exemple, en Italie, vous avez beaucoup d'EHPAD où il y a plusieurs lits par chambre. Donc il y a 2, 3, voire 4, même dans certains cas. Et pour eux, c'était quelque chose de tout à fait bénéfique pour les patients parce qu'ils avaient de la compagnie en permanence et ça... C'est quelque chose qui était plutôt bénéfique pour la santé de leurs patients. Et puis bon, c'est quand même un peu en train d'évoluer, et donc il y a besoin de plus en plus d'aller sur un modèle français où il y a un lit par chambre.
Eh bien, merci beaucoup, Alfred. Aurélie Bassnier, alors, vous êtes donc directrice active de santé et résidence gérée pour CBR Evaluation. Alors, pouvez-vous nous présenter CBR Evaluation ?
Oui, tout à fait. CBRE Evaluation, donc, c'est une filiale à 100% de CBRE France qui est spécialisée dans l'expertise. Donc nous, on intervient pour donner des valorisations, notamment sur des actifs de santé, dans le cadre de financement ou pour des besoins réglementaires ou à l'acquisition.
Alors, la classe d'actifs EHPAD et cliniques, dont on parlait avec Alfred, s'adressait historiquement à quelques investisseurs immobiliers qui connaissaient particulièrement cette classe d'actifs. Et c'est vrai qu'Audrey en a parlé, depuis quelques années, ça s'est vraiment démocratisé, ça a attiré un plus grand nombre d'investisseurs qui ne connaissent pas forcément le marché. Comment ils arrivent à entrer sur le marché ? Comment ça se passe ?
Écoutez, c'est vrai que ça a attiré des nouveaux investisseurs, mais globalement, les investisseurs les plus actifs restent les acteurs historiques, je dirais. Donc, on compte notamment Icade Santé, Primonial, BNP, les SCPI, aussi Pierre Valsanté, qui est une SCPI historique. Et puis, depuis 1 ou 2 ans, on a vu d'autres asset managers venir sur le marché, donc notamment la française qui a lancé une SCPI il y a un an ou deux, qui est assez actif. Et puis on a d'autres fonds comme Lifento, Mosaïque ou Amundi qui regardent aussi un petit peu le secteur.
Mais c'est vrai qu'Amundi s'intéresse, comment ça s'intéresse?
Ils ont lancé effectivement aussi une SCPI santé. Donc pour l'instant, ils ont plutôt acquis des actifs des maisons médicales. Mais en tout cas, ils s'intéressent au secteur tant en France qu'en Europe.
Bon, faut pas se leurrer, ils ont vu la performance, les performances, et forcément, ça intéresse.
Tout à fait. Et puis, aujourd'hui, comme on vient de le dire, mais c'est un actif aussi qui répond vraiment à des enjeux sociétals, quoi, donc, et qui répond aussi à tous les critères ESG des fonds. C'est un actif aussi qui est assez résilient, on l'a vu pendant le Covid, hein, donc beaucoup de mesures ont été mises en place pour soutenir ce secteur de la santé. En France, notamment, assez peu, finalement, de renégociation des baux pendant le Covid. Oui. Donc tout ça, en fait, a conforté l'intérêt des investisseurs pour cette classe d'actifs.
Vous avez vu une explosion des intérêts après le Covid, post-Covid, après les confinements?
Disons, explosion, alors, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, maintien d'un fort intérêt sur le secteur.
Alors, même question qu'à Alfred, quelles sont les forces et les faiblesses pour vous, des EHPAD, des cliniques, des bâtiments de santé, pour un investisseur en immobilier?
Alors, la première force, je dirais, donc, c'est effectivement répondre à un besoin de santé. En fait, c'est une classe d'actifs qui bénéficie de fondamentaux solides, donc vieillissement de la population, accès aux soins et autres. Faut aussi dire que ce sont des actifs qui bénéficient de bons long terme. Donc, en général, on est sur des baux fermes entre 9 et 12 ans en France. Ça peut être même supérieur en Europe. On a une protection quelque part, surtout aujourd'hui, contre l'inflation, comme l'ensemble des actifs immobiliers, avec le système des indexations qui se fait annuellement, donc sur le loyer. Et puis, je dirais, dernier point, on est sur des critères ESG forts, donc sur cette classe d'actifs, notamment sur les besoins sociétaux, mais également sur l'amélioration et les performances énergétiques des bâtiments. On voit clairement aujourd'hui que les investisseurs commencent à mettre des capex sur ces actifs et ils se nouent à ce niveau-là un véritable partenariat avec les exploitants.
Ça, vous le constatez, hein?
Oui, ouais, clairement.
Depuis.
Et sur l'ensemble des due deals, aujourd'hui, maintenant, on a le volet technique et environnemental qui représente vraiment une forte part de l'analyse. Et à côté de ça, systématiquement, il y a effectivement des capex qui sont mis en place dans les business plans.
Alors, comment vous voyez les valeurs vénales évoluer chez CBRE?
Alors, les valeurs vénales ont déjà un peu évolué à la baisse, hein, comme sur toutes les classes d'actifs.
Depuis combien de temps? Depuis quelques mois?
Je dirais entre décembre, depuis décembre, on va dire. Mais la décompression des taux est peut-être moins forte sur les actifs de santé pour le moment que sur d'autres classes d'actifs. En moyenne, je dirais qu'on est sur une décompression des taux autour de 30-40 bips. Donc effectivement, les taux EHPAD aujourd'hui, prime, hein, donc on l'estime autour de 4,40, sur les cliniques MCO autour de 4,95. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'écarts entre ces actifs vraiment prime et ceux qui peuvent être localisés sur des zones secondaires, on va dire, ou qui sont de moins bonne qualité. Donc l'écart s'est creusé aussi à ce niveau-là.
Ah, c'est quoi des zones secondaires?
Justement des zones un peu plus rurales, des bâtiments aussi un peu plus vétustes, des durées résiduelles de baux plus courtes avec un risque éventuel de départ du locataire. Voilà, tout ça sont des critères qu'on prend en compte évidemment dans le taux. Et aujourd'hui, les investisseurs regardent quand même, dans leur pricing, intègrent vraiment une décote par rapport à ces différents critères.
Ils osent plus imposer une décote que...
Ils osent après, c'est vrai que le marché en fait est assez calme, hein, hormis le deal primonial que vous évoquiez au début de l'émission. Le marché est assez calme sur le premier semestre. Donc les deals qui sont en cours, ce sont des deals qui avaient déjà été initiés en fait l'année dernière. Donc on attend un peu de voir. Ce qu'on constate, c'est sûr qu'il y a une attente un peu différente entre acquéreurs et vendeurs, comme sur les autres classes d'actifs.
Donc vous pensez pour ce deuxième semestre, vos prévisions, c'est relativement calme également. Pareil pour début 2024.
Je pense effectivement sur l'ensemble de l'année 2023, là, on assistera à un attentisme un peu du marché pour voir comment tout ça se positionne.
Les valeurs locatives, par exemple, là vous parlez des différentes zones, comment elles évoluent depuis que... c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu compliqué, national et puis international, avec l'inflation. comment vous les voyez évoluer, justement, ces valeurs locatives?
Alors, il faut peut-être rappeler, les valeurs locatives sur des actifs de santé, en fait, s'appréhendent aussi au regard des chiffres de l'exploitant. Donc, ouais. C'est-à-dire que, un peu comme l'hôtellerie, on va regarder des taux d'effort. Donc, typiquement, des taux d'effort, on va regarder le loyer sur les bits d'art. Donc, historiquement, sur les EHPAD, on était sur des ratios entre 45-55%, sur les cliniques, 35-45 à peu près. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les exploitants, notamment sur les chiffres 2022, ont dû faire face en fait à une hausse des coûts d'exploitation, notamment avec la hausse des coûts salariaux, la hausse des coûts énergétiques, des matières premières. Oui. Donc en fait, on affiche un EBITDA un peu globalement en retrait. Donc c'est vrai que ce taux d'effort qu'on regardait et qui était fixé dans ces fourchettes-là, au cas par cas, peut augmenter aujourd'hui. Donc toute l'idée, c'est de savoir s'il est tenable sur le long terme pour l'exploitant. Donc on est aussi en train de voir sur 2023, avec les différentes revalorisations salariales, enfin tarifaires, pardon, comment vont évoluer les chiffres. Mais aujourd'hui, on va dire que les exploitants peuvent encore payer les loyers sur la grosse majorité des portefeuilles, en tout cas ce que nous, on évalue chez CBRE. Et ce qu'on constate, c'est que généralement, au renouvellement, l'exploitant, en fait, arrive à maintenir quasiment le loyer en place, sauf cas particulier, à condition aussi qu'il accompagne à nouveau l'exploitant avec des développements de CAPEX pour l'amélioration des sites, notamment sur les cliniques ou sur les EHPAD.
Et alors, au sein des cliniques, est-ce que les investisseurs ont des préférences en termes de MCO, etc.?
Préférence, alors je dirais que ça dépend plus des investisseurs, en fait.
Qui sont moins nombreux depuis le début de l'année.
Oui, exactement. Les investisseurs historiques, notamment ICAD, Primonial, BNP, en fait, ont toujours investi sur l'ensemble des classes d'actifs, donc toute typologie de clinique confondue, donc MCO, PSI, SSR. Après, c'est vrai que les MCO, en fait, ont des gros plateaux techniques, c'est quand même plus difficile dans l'étude du dossier, dans la compréhension, en fait, du dossier. Donc, il y a certains investisseurs qui vont se positionner essentiellement sur des cliniques psy-SSR qui sont peut-être moins spécifiques en termes d'équipement, en termes de bâti.
Parce que psy, il y a beaucoup moins d'équipement, non?
Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas, si vous voulez, toutes les salles d'opération ou autres.
C'est plutôt quoi, des médecins? Les principaux coûts, c'est quoi, les médecins?
Oui, ce sont des... En fait, il y a de l'hébergement, donc, et après, ce sont des salles d'activité, des bureaux de consultation, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a moins quand même d'équipement technique.
Et donc, moins de consommation d'énergie aussi.
Oui, oui, c'est lié aussi. Et en revanche, sur le SSR, on peut voir des SSR avec des gros plateaux de rééducation ou de la balnéothérapie.
D'accord.
Ouais, ouais. Donc,
pas de préférence a priori, enfin peut-être un petit peu pour les...
Oui, je dirais que historiquement, les investisseurs qui étaient juste présents sur les EHPAD vont plus facilement aller sur de la psy et de la SSR que vraiment sur des cliniques MCO qui sont un peu plus techniques.
Est-ce que, peut-être dernière question, comment vous voyez évoluer le secteur? Est-ce que, pour les années à venir?
Écoutez, comme on l'a dit, je pense que de toute façon, le secteur est là pour répondre vraiment à des besoins fondamentaux. C'est très important pour la population, l'accès aux soins, le bien vieillir. Donc, je pense que le secteur a encore des belles années devant lui. Et effectivement, aussi avec tout un volet sur les actifs immobiliers, notamment les plus anciens, où il va falloir, dans les années à venir aussi, améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Ils représentent combien de parts de marché, ces bâtiments un peu anciens?
C'est difficile à estimer. Honnêtement, je n'ai pas trop d'idées, mais enfin, en tout cas, une part quand même assez importante.
Assez importante.
Ouais.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci Alfred de Crépy, merci Aurélie Basnier. Merci aussi Audrey Jourdain pour cette émission. On se retrouve à la rentrée pour un tout nouveau numéro du Mag au carré sur Radio Immo. À bientôt.
Le Mag au carré en partenariat avec la lettre Mètre Carré.